Nous sommes au Hard Rock Café avec Alexandre du groupe Atlantis Chronicles, bonsoir.
Bonsoir.
Donc on est là pour parler de la dernière production qui sort dans quelques jours, Barton's Odyssey.
Avant ça, on a eu une démo qui s'appelait Silent Depths il y a très longtemps sous le nom d'Abyss, parce qu'on a notre nom à son groupe a changé entre temps. En 2009, il y a eu Against the Sea, qui était un EP, pareil, toujours sous le nom d'Abyss. En 2010, Antoine, notre chanteur, a rejoint le groupe, avant ça c'était moi qui chantais. Et ensuite, en 2013, 10 Miles Underwater, sous le nom d'Atlantis Chronicles, avec Antoine cette fois-ci au chant. Et maintenant, le 25 mars prochain, Barton's Odyssey, avec le seul changement qu'il y a entre le premier album, c'est le bassiste, qui a changé. On a Simon maintenant qui remplace Michael. Et voilà, en gros. Donc c'est notre deuxième album. Avant, c'était EP et démo.
Le concept, toujours dans le fond des océans, on va commencer par le concept et puis après on reviendra sur la musique.
Bien sûr. Alors, je vais peut-être parler déjà du premier album, un peu pour aiguiller. Le premier album parle donc de William Beebe. C'est un personnage qui a vraiment existé. William Beebe, c'est un explorateur des fonds marins. On peut d'ailleurs voir en photo dans le livret de l'album. Et donc, William Beebe explore les fonds marins dans le premier album. Et au fur et à mesure de sa descente, il se renferme sur lui-même. Psychologiquement, et il se fait une sorte de critique du monde de la surface. Et préfère en final mourir seul, perdu dans sa folie, dans le fond des mers quoi, des océans. À travers son voyage, avant ça, il raconte des créatures mythologiques, des moments où il aura aussi perdu la tête. Donc, est-ce qu'il aura vu, sera réel ou non? Bref, il y a plusieurs thématiques, plusieurs sujets dans le premier album. Deuxième album, ça parle donc de Otis Barton, qui est le compère de William Beebe, qui l'a aidé à construire la bathysphère, tout ça. Otis Barton, lui, c'est un personnage qui est aussi vraiment existé, mais on en fait notre fiction, tout comme le premier album. Hein, William Beebe, il est en vie, hein, enfin, il est en vie, il était en vie, hein, voilà, mais il n'est pas mort dans le fond des océans, voilà, hein, je précise. Otis Barton, lui, a donc voulu partir à la recherche de la dépouille ou de ce qui était arrivé à William Beebe. Il s'est donc construit un super submersible qui s'appelle l'Odysseus. Il part dans les fonds marins. Et il découvre autre chose. Il tombe pas que sur la dépouille de son compère, mais sur une effervescence de la faune et de la flore qui lui fait comprendre que la fin du monde est proche. À la suite de ça, il va donc vouloir remonter à la surface et alerter tout le monde, mais la fin arrive, mais il y survit. Il y survit, et ce qu'on veut mettre en lumière, c'est cette image de cycle. C'est pas parce que le monde d'aujourd'hui peut être détruit que le monde de demain ne sera pas meilleur. Et ça, c'est le cas dans tout, dans la vie. Quand on perd un ami, ça va pas là, mais ça ira mieux plus tard. Et c'est ça qu'on veut mettre en lumière, entre guillemets, quoi. Que dire de plus? Cette histoire-là, ce récit qu'Otis vit, il est raconté des millénaires et des millénaires après, en fait, à une nouvelle génération d'Atlantes, parce qu'à la fin de l'album, l'Atlantide ressurgit. Et donc, il y a une nouvelle civilisation qui se met en place avec une poignée d'êtres humains, dont les survivants de l'apocalypse, dont Otis Barton, justement. Et son récit est raconté de comment est-ce qu'il a découvert que ça allait être la fin du monde, tout ça. Quel était le monde d'avant? En gros, là, j'étais tout spoilé. Hein. Voilà.
C'est ce qu'on peut retrouver musicalement avec des parties comptées, on va dire, avec le narrateur et après les morceaux qui s'enchaînent.
Exactement, c'est ça. On a Raphaël qui a donc compté ce récit par des courtes interludes. Qu'il avait une voix très particulière quand on l'a rencontré, c'était lors d'un concert, on s'est dit, ah, ce gars-là, il a vraiment quelque chose. Et on avait déjà comme idée, ce serait cool quand même si on arrivait à avoir une voix qui puisse compter narrer notre histoire par court moment. Et on s'est dit, non, il a une super voix, on va lui demander. Il était très partant, il avait déjà travaillé en Angleterre, donc il savait qu'il avait déjà l'accent. On avait ça avec lui, ça s'est très bien passé. Et ça colle vraiment bien, je trouve, à l'univers sonore qu'on a développé. À côté de ça, on a mis aussi du sound design, on a mis plein de choses pour, quand il parlait, essayer de recréer l'univers de l'Odysseus, donc de son submersible à lui, de recréer tout cet univers-là, pour que l'auditeur, quand il écoute, se dise, ah ouais, là, on n'est plus dans les eaux, on n'est plus dans la musique, et on est dans du entre guillemets, dans une autre atmosphère, on est in, on n'est pas off, voilà.
Musicalement, ça tabasse, mais avec une bonne dose de technique.
Voilà, ça tabasse avec une bonne dose. On peut dire ça comme ça. Dans le groupe, de toute façon, on a tous diverses influences. Sinem aime beaucoup tout ce qui est brutal, le batteur. Antoine, lui, aime beaucoup tout ce qui est deathcore, même de la pop, d'autres choses comme ça. Simon aime beaucoup le djent ou de la musique électro. Jérôme n'écoute quasiment pas de métal, mon autre guitariste. Voilà. Et moi, bah, j'écoute un peu de tout. J'écoute vraiment de tout, notamment Between the Buried and Me, The Human Abstract, Protest the Hero, Size the Cake. Il y en a tellement de groupes que là, je ne vais peut-être pas tous les énumérer. Mais ouais, on s'inspire d'énormément de groupes qui sont brutaux, des fois, mais des fois pas, mais avec des couleurs assez particulières. Et on trouve ça vraiment intéressant de mettre des couleurs, ce que moi je ressens, des couleurs vivantes, vivaces, avec une bonne dose de brutalité, tout en par moment, ben, baisser le tempo, faire des choses plus calmes, alterner. On trouve ça très important.
C'est ce qu'on retrouve, puisque vous avez mis des petites vidéos sur votre page Facebook au fur et à mesure, et on voit quelques mini-sessions d'enregistrement, et c'est vrai qu'au niveau du tempo, bah, y a des fois ça va à fond, quoi, et d'autres fois vous êtes plutôt, on va dire, peut-être presque en dessous de 100, à peine.
On essaie vraiment de faire descendre les choses pour calmer le jeu, parce qu'on veut exprimer aussi autre chose, donc on fait les choses à fond, entre guillemets.
Votre but et votre... Alors, il y a toujours une évolution, bien sûr, dans la vie des groupes, etc. Quel était votre but pour vous sur la sortie de ce nouvel album, Barton Odyssey? Qu'est-ce que vous vouliez construire avec ça?
Il y a deux choses. Il y a toute la partie musicale. On est arrivé au bout de quelque chose avec cet album-là. On s'est dit, ce qu'on a avec cet album, c'est quelque chose qu'on voulait faire depuis des années, je pense. Qu'on a réussi à laisser digérer, à maturer jusqu'à ça. Et maintenant que c'est fait, là, ce qu'on attend, c'est à l'aide de cet album-là, bah, faire autant de dates que le premier. Sur le premier, on avait fait environ 80 dates, avec une bonne partie en France, en Europe, et également au Japon. On a fait une tournée au Japon. Et là, bah, ouais, on espère en faire autant. On a quelques dates, voilà, qui sont déjà présentes, et on en a d'autres là qui sont en cours de confirmation, tout ça.
Pour la musique, justement, qu'est-ce que vous avez changé éventuellement sur votre façon de faire, d'enregistrement? Parce que je vais revenir sur ces vidéos sur Facebook. On a l'impression que vous avez fait ça à la maison, presque.
Bah, en fait, ça a été fait dans le home studio de Sydney, mon batteur. Donc ouais, c'est un peu comme chez nous, hein, on va dire ça comme ça, ouais. Donc on y est assez confort, on y est bien, on prend le temps de faire les choses, on va pas se rusher à faire un album vite fait. Non, on n'a jamais fait ça, on va pas le faire aujourd'hui. Juste, on a pris notre temps, c'était chez Sydney, et ça s'est très bien passé.
Mastering, tout ça?
Si, je vais redéfinir deux, trois choses. Les guitares et les basses ont été faites, donc home studio de chez Sydney. La batterie n'a pas été faite chez Sydney, ça a été fait chez The Office The Artist, hein, qui est dans l'ouest parisien. La voix, ça a été fait aux cuisines de Shell. Tout ce qui est ensuite mixage, ça a été fait en Michigan par Joshua Wickman, qui a fait le mix et le mastering.
Pourquoi lui?
Parce qu'on a fait le premier album avec lui et que ça avait grave bien sonné. On était déjà bien contents. On s'était dit qu'il pouvait faire encore mieux au vu de ce qu'il produisait déjà et que nous aussi, avec ce qu'on avait amené, ça pouvait sonner encore mieux. On est allé droit au but. On s'est dit, on va prendre la même chose, ça marche bien. Hein?
Il y a des morceaux, parce que vous avez déjà tourné un petit peu, enfin, il y a déjà des dates qui se sont passées. Il y a déjà des morceaux qui commencent à faire réagir le public en concert, parce qu'il y a deux lyrics vidéo, on peut dire, ou deux vidéos qui sont sorties pour donner un peu envie aux gens.
Back to the Adaptopia sur scène de ces deux morceaux-là. On a le jeu d'autres aussi, du deuxième album. Mais ouais, les gens ont bien réagi sur Back to Adaptopia. On a joué aussi d'autres sons qui sont sur l'album et qui sont pas, vu que l'album sort le 25 mars, c'est pas encore sorti. Donc les gens, c'était marrant de voir leur réaction, qui était des fois en mode, ah bah non, j'ai plutôt écouté, plutôt bougé, et de les voir sourire. Tu vois, c'est différent, mais c'est cool. Après, il y a d'autres morceaux aussi qui sont sur le deuxième album qui sont ni en sortie pour le moment, qui sont pas encore présents, et que les gens ont été bangués, et c'était impressionnant à voir.
Bonne réaction du public, déjà, même sans connaître, voilà, ça déstabilise pas les fans, on va dire.
Pas pour le moment, mais de toute façon, les prochains concerts qu'on fera, l'album sera sorti. Donc là, il n'y aura pas de déstabilisation possible, je pense.
Donc là, on peut retrouver effectivement quelques dates. Ça s'amoncelle un petit peu au fur et à mesure. Le but, c'est que vous puissiez faire un maillage dans toute la France, je suppose.
Ouais.
Et puis même au-delà de la France.
Ouais. Là, on a plusieurs dates qui se sont faufilées, que ce soit en France, en Suisse, en Belgique. On va essayer d'aller au-delà de ça. On va essayer d'aller peut-être jusqu'au Canada. Là, c'est notre objectif. Le premier album, on souhaitait aller au Japon. On a été au Japon. Donc là, on se dit, pourquoi pas le Canada, c'est un territoire qui nous a toujours fait très envie. Il y a eu beaucoup de groupes de métal qui nous ont inspirés, qui étaient canadiens. On a toujours rêvé d'aller là-bas. Voilà.
Sur votre setlist, je suppose qu'elle va bouger justement avec la sortie de l'album. Vous allez peut-être le mettre un peu plus en avant. Vous allez respecter la tracklist pour que justement il y ait une cohérence sur l'histoire, ou est-ce que vous allez le mettre dans le désordre pour l'ambiance ?
En live, justement, c'est bon, il y a beaucoup de gens qui me posent cette question. Mais c'est vrai que enfin, moi, je l'ai pas pensé comme ça jusqu'à maintenant. Mais en live, ouais, on veut vraiment faire que le concert soit bien. On va pas se dire, ah, machin, c'est pas dans cet ordre-là. Et comment dire, faire dans l'ordre de l'album, il y a des moments, ça pourrait peut-être être mou. Ou même mélanger le premier et le deuxième et les faire dans l'ordre, ça marcherait pas, je pense. Donc, je pense que, ouais, on va plutôt mettre les morceaux qui sont efficaces et que le public aussi souhaite entendre. C'est ce qui va mieux marcher, je pense, pour du live, du moins.
Un mot sur la pochette et l'artwork.
C'est Paul Olofsson qui l'a fait. On est tous très fans de son travail. On l'avait déjà pris pour le premier album. Il avait fait vraiment une pochette qu'on a adorée. Là, ça représente vraiment un moment phare de l'album. C'est quand Otis Barton découvre la Baptisphère et commence à justement comprendre que la fin du monde va bientôt se dévoiler, juste avant ça. Et moi, cette pochette, je l'adore. On avait déjà travaillé avec lui avant. Et il a toujours été réceptif, et il nous a aussi aidé à orienter la pochette. Nous, on lui a dit, on aimerait ces éléments-là, mais après, tu fais ton job, quoi. C'est ton travail. Il a sa patte à lui, on avait pleinement confiance, et il a parfaitement bien amené ça, quoi.
C'est un visuel qu'on retrouvera en drapeau fond de scène, ou?
Tout à fait.
Vous aurez un clip, je veux dire, entre guillemets, un vrai clip qui sera tourné, peut-être en animation ou en live, ou?
Le clip est déjà tourné, en fait, pour te dire. Il a déjà été tourné, il sort normalement début avril. Voilà.
Vous pouvez donner le titre ou c'est secret ? Ça peut être secret.
Non, je pense pas. Je pense pas que je peux le dire. Ça sera Upwelling Part 1.
Tu te retrouves tout seul sur Terre. Tu es le dernier être humain. Et tu vas finir tes jours avec un des robots que je vais te présenter. Tu peux finir tes jours soit avec Baymax, avec Wally, avec C3PO, le T800 ou Astro. Avec qui tu voudrais finir tes jours ?
Alors, en fait, en ce moment, je suis en train de lire Pluto. C'est un manga qui raconte l'histoire d'Astro Boy. Je découvre du coup le personnage d'Astro. Je l'ai toujours vu, comme tu me le présentes là, avec des traits très enfantins. Mais là, je le vois maintenant à travers ce manga-là, avec des traits beaucoup plus matures et adultes. C'est une histoire très sombre, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, ben, Astro, il est tellement cool que... Ouais, peut-être Astro, attends. Je regarde. Bon, le T-800, ça me paraît un peu compromis. Hein. Z6PO. Ouais, peut-être... Ah, j'hésite. Hein. Si ça serait C3PO, ça serait pour vraiment l'avoir comme boniche, donc ça serait vraiment pas cool, ça serait pas des vrais rapports humains. Je pense que je prendrais Astro Boy, ouais.
Okay. Merci.
De rien, merci à toi.